les merveilles de la bureaucratie. Les Mésopotamiens finirent par écrire autre chose que des données mathématiques monotones. Entre 3000 et 2500 avant notre ère, le système sumérien ne cessa de s'enrichir de signes qui le transformèrent progressivement pour en faire l'écriture complète que nous appelons le cunéiforme. En 2500 avant Jésus-Christ, les rois utilisaient le cunéiforme pour promulguer des décrets, les prêtres pour enregistrer des oracles et des citoyens moins haut placés pour écrire des lettres personnelles. À peu près à la même époque, les Égyptiens mirent au point une autre écriture complète dite hiéroglyphique. D'autres écritures complètes virent le jour en Chine autour de moins 1200 et en Amérique centrale autour de 1500 avant notre ère. Les écritures complètes se répandirent largement depuis ces centres initiaux, prenant des formes nouvelles et remplissant des tâches inédites. On se mit alors à écrire de la poésie, des livres d'histoire, des romans, des drames, des prophéties et des livres de cuisine. Mais la tâche la plus importante de l'écriture resta de stocker des masses de données mathématiques, et cette tâche demeura la prérogative de l'écriture partielle. La Bible hébraïque, l'Iliade pour les Grecs, le Mahabharata hindou et le Tipitaka bouddhiste sont tous nés d'œuvres orales. Pendant de longues générations, ils se transmirent oralement et se seraient perpétués même si l'écriture n'avait jamais été inventée. Mais les registres d'impôts et les bureaucraties complexes étaient nés avec l'écriture partielle et demeurent inexorablement liés à ce jour comme des frères siamois. Il n'est qu'à penser aux entrées énigmatiques des bases de données et des tableaux informatisés. De plus en plus de choses étant écrites, les archives administratives prirent notamment des proportions considérables et de nouveaux problèmes surgirent. L'information stockée dans le cerveau est facile à retrouver. Mon cerveau emmagasine des milliards de bits de données, mais je peux rapidement, presque instantanément, retrouver le nom de la capitale de l'Italie, me remémorer juste après ce que j'ai fait le 11 septembre 2001, puis reconstruire le trajet qui mène de chez moi à l'Université hébraïque de Jérusalem. Si la façon dont procède exactement le cerveau demeure un mystère, nous savons tous que son système de récupération est d'une efficacité stupéfiante, sauf quand vous essayez de vous souvenir où vous avez bien pu mettre les clés de la voiture. Mais comment faire pour trouver et retrouver l'information stockée sur les ficelles des kipous ou sur les tablettes d'argile? Si vous n'aviez qu'une dizaine ou une centaine de tablettes, ce ne serait pas un problème. Mais si vous en avez accumulé des milliers, comme un des contemporains d'Amourabi, le roi Zimri-Lim de Mari. Transportons-nous un instant à Mari en 1776 avant notre ère. Deux habitants se disputent la possession d'un champ de blé. Jacob assure l'avoir acheté il y a 30 ans à Ésaü, qui proteste l'avoir non pas vendu, mais loué avec un bail de 30 ans. Le terme étant maintenant échu, ils comptent bien le récupérer. Ils crient, se chamaillent et en viennent aux mains avant de se rendre compte qu'ils peuvent régler leurs différends en faisant un tour aux archives royales, où sont entreposés les contrats et les actes de vente de tous les biens immobiliers du royaume. Sur place, les archivistes ne cessent de se renvoyer la balle. Les postés se succèdent, on les invite à revenir demain, avant qu'un employé mal embouché finisse par les accompagner pour qu'ils jettent un œil sur la tablette d'argile qui les concerne. L'employé ouvre la porte et les conduit dans une immense pièce dont les murs sont couverts de milliers de tablettes d'argile du sol au plafond. La mine revêche de l'employé n'a rien d'étonnant. Comment est-il censé retrouver un contrat vieux de 30 ans ? Même s'il met la main dessus, comment s'assurer que ce document est bien le dernier en date concernant le champ contesté? S'il ne le retrouve pas, est-ce pour autant la preuve qu'Ésaü n'a jamais vendu ni loué le champ? À moins que le document ne se soit perdu ou que l'infiltration de la pluie dans les archives n'en ait fait de la bouillie. De toute évidence, imprimer un document dans l'argile ne suffit pas à garantir un traitement de données efficace, exact et commode. Cela requiert des méthodes d'organisation comme des catalogues, des méthodes de reproduction comme des machines à photocopier, des méthodes rapides et précises pour retrouver le document en question, des algorithmes d'ordinateur, mais aussi des bibliothécaires pédants et enjoués, il faut l'espérer, qui sachent s'en servir. Inventer de telles méthodes s'est révélé bien plus difficile que d'inventer l'écriture. De nombreux systèmes d'écriture se développèrent indépendamment au sein de cultures éloignées les unes des autres dans le temps et dans l'espace. Chaque décennie, les archéologues découvrent d'autres écritures oubliées. Certaines pourraient même être plus anciennes que les marques sumériennes dans l'argile. La plupart n'en demeurent pas moins des curiosités, parce que leurs inventeurs n'ont pas trouvé de moyens efficaces pour cataloguer et retrouver les informations. Ce qui distingue Sumer, mais aussi l'Égypte pharaonique, la Chine ancienne et l'Empire Inca, c'est que ces cultures mirent au point de bonnes techniques d'archivage, de catalogage et de récupération des archives écrites. Elles investirent aussi dans des écoles de scribes, d'employés de bureaux, de bibliothécaires et de comptables. Un exercice d'écriture d'une école de Mésopotamie ancienne, retrouvé par des archéologues modernes, nous donne un aperçu de la vie de ses élèves il y a 4000 ans. Je suis entré et me suis assis, et le maître a lu ma tablette. Il a dit « Il manque quelque chose ». Et il m'a frappé. Un des responsables a dit « Pourquoi as-tu ouvert la bouche sans ma permission ?» Et il m'a frappé. Le responsable des règles a dit « Pourquoi t'es-tu levé sans ma permission ?» Et il m'a frappé. Le portier a dit « Pourquoi sors-tu sans ma permission ?» Et il m'a frappé. Le gardien du pot de bière a dit « Pourquoi t'es-tu servi sans ma permission ? » Et il m'a frappé. Le maître sumérien a dit « Pourquoi as-tu parlé acadien ?» Et il m'a frappé. Mon maître a dit « Ton écriture n'est pas bonne. » Et il m'a frappé. Si l'acadien était devenu la langue parlée, le sumérien demeurera la langue de l'administration et donc la langue de l'écriture. Les scribes en herbe devaient apprendre le sumérien. Les scribes anciens apprirent non seulement à lire et à écrire, mais aussi à utiliser des catalogues, des dictionnaires, des calendriers, des formulaires et des tableaux. Ils étudièrent et assimilèrent des techniques de catalogage, de récupération et de traitement de l'information très différentes de celles du cerveau. Dans le cerveau, les données sont associées librement. Quand avec mon épouse, je vais signer une hypothèque pour notre nouvelle maison, je me souviens du premier endroit où nous avons vécu ensemble, ce qui me rappelle notre lune de miel à la Nouvelle-Orléans, qui me rappelle les alligators, qui me font penser aux dragons, qui me rappelle l'anneau des Nibelungen. Et soudain, sans même m'en rendre compte, je fredonne le leitmotiv de Siegfried devant l'employé de banque interloqué. Dans la bureaucratie, on se doit de séparer les choses. Un tiroir pour les hypothèques de la maison, un autre pour les certificats de mariage, un troisième pour les impôts et un quatrième pour les procès. Comment retrouver quoi que ce soit autrement? Ce qui entre dans plus d'un tiroir, comme les drames wagnériens, dois-je les ranger dans la rubrique musique ou théâtre, voire inventer carrément une nouvelle catégorie? Est un terrible casse-tête. On n'en a donc jamais fini d'ajouter, de supprimer et de réorganiser des tiroirs. Pour que ça marche, les gens qui gèrent ce système de tiroirs doivent être reprogrammés afin qu'ils cessent de penser en humains et se mettent à penser en employés de bureau et en comptables. Depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, tout le monde le sait, les employés de bureau et les comptables ne pensent pas en être humains. Ils pensent comme on remplit des dossiers. Ce n'est pas leur faute. S'ils ne pensent pas comme ça, leurs tiroirs seront tout mélangés et ils seront incapables de rendre les services que leur administration, leur société ou leur organisation demandent. Tel est précisément l'impact le plus important de l'écriture sur l'histoire humaine. Elle a progressivement changé la façon dont les hommes pensent et voient le monde. Libre association et pensée holiste ont laissé la place au compartimentage et à la bureaucratie. Le langage des chiffres. Au fil des siècles, les méthodes bureaucratiques de traitement des données devinrent toujours plus différentes des façons naturelles de penser et toujours plus importantes. Une étape critique se situe avant le 9e siècle de notre ère, avec l'invention d'une nouvelle écriture partielle capable de stocker et de traiter des données mathématiques avec une efficacité sans précédent. Cette écriture partielle se composait de 10 signes, représentant les chiffres de 0 à 9. Chose assez déroutante, ces signes sont connus sous l'appellation de chiffres arabes, alors même qu'ils sont une invention des hindous. Pour ajouter encore à la confusion, les arabes modernes emploient une série de chiffres qui semblent très différents des chiffres occidentaux. Mais c'est au crédit des Arabes qu'on en a porté la paternité, parce que, quand ils ont envahi l'Inde, ils ont découvert le système, en ont compris l'utilité, l'ont élaboré et l'ont diffusé au Moyen-Orient et en Europe. Divers autres signes sont ensuite venus s'ajouter aux chiffres arabes. Ainsi, des signes pour l'addition, la soustraction et la multiplication, créant la base de la notation mathématique moderne. Bien qu'il demeure une écriture partielle, ce système est devenu le langage dominant du monde. Qu'il parle arabe, hindi, anglais ou norvégien, la quasi-totalité des États, entreprises, organisations et institutions utilisent l'écriture mathématique pour enregistrer et traiter les données. Toute bribe d'information susceptible d'être traduite en écriture mathématique est stockée, diffusée et traitée à une vitesse et avec une efficacité confondante. Qui souhaite influencer les décisions des gouvernements, des organisations et des entreprises doit donc apprendre à parler chiffres. Les experts font même de leur mieux pour traduire en chiffres des idées comme la pauvreté, le bonheur et l'honnêteté. Ainsi, du seuil de pauvreté, des niveaux subjectifs de bien-être et de la réputation de solvabilité. Des domaines entiers du savoir, comme la physique et l'engineering, ont déjà perdu quasiment tout contact avec le langage humain parlé et ne connaissent que l'écriture économique. Plus près de nous, l'écriture mathématique a donné naissance à un système d'écriture encore plus révolutionnaire, une écriture binaire informatisée qui ne consiste qu'en deux signes, 0 et 1. Tous les mots que je tape à cet instant sur mon clavier sont écrits par mon ordinateur avec des combinaisons différentes de 0 et 1. À sa naissance, l'écriture était la servante de la conscience humaine. De plus en plus, elle en est la maîtresse. Nos ordinateurs ont du mal à comprendre comment Homo sapiens parle, sent et rêve. Aussi, apprenons-nous à Homo sapiens à parler, sentir et rêver dans le langage des chiffres que comprend l'ordinateur. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Le domaine de l'intelligence artificielle s'efforce de créer une nouvelle espèce d'intelligence, exclusivement fondée sur l'écriture binaire des ordinateurs. Des films de science-fiction comme Matrix et Terminator parlent d'un jour où l'humanité sera sous le joug de l'écriture binaire. Quand les hommes essaient de reprendre le contrôle de l'écriture rebelle, elle se venge en essayant de balayer l'espèce humaine.